France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, à la fin des fins, les dieux se sont quand même décidés, après 10 années, à mettre un terme à la guerre de Troie, d'y mettre fin par une victoire totale, impitoyable, des Grecs.
Ulysse, les grandes portes, ouvre-les. Encerclez la cité. Que personne ne sorte.
Les Grecs sont dans la cité. Il faut dégager le passage souterrain.
Où est passé Alexandre?
Dehors, il les retiendra le plus longtemps possible.
Bien, vous allez tous former une chaîne et sortir la terre du passage. Exécution.
De Troie, il ne restera quasiment rien que des cendres. Elle a été longue, très pénible cette guerre. Les Grecs, les assaillants qui ont débarqué en masse sur la plage de Troie pour récupérer Hélène, et surtout pour faire du butin et pour voler des femmes troyennes, n'en peuvent plus. Ils sont épuisés.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Dans sa tragédie Agamemnon, le poète Eschyle fait parler un guerrier de l'armée grecque.
Si je disais les peines, les mauvais bivouacs, les coursives serrées et mal faites pour coucher, que n'avions-nous pas à pleurer, à subir comme l'eau de chaque jour? Et sur terre encore, nous venait une horreur plus grande. Nos lits étaient dressés sous les murailles des ennemis. Depuis le ciel est monté de la terre, la rosée des prairies sourdait goutte à goutte, mal constant, peuplant de bêtes le crin des vêtements. Et si l'on disait l'hiver tueur d'oiseaux, tel que nous l'offrait immaîtrisable la neige de l'Ida ou la chaleur, quand la mer sans vagues s'affalait, endormant sur sa couche sans souffle de midi.
En Grèce aussi, on souffre. Chaque famille a son lot de deuil quand elle reçoit les cendres d'un homme mort au loin, en terre étrangère, à cause d'Hélène, la femme d'un autre. Personne n'est épargné. Le dieu de la guerre, Arès, se livre à un sordide trafic.
Malheur total pour ceux qui se sont élancés de la terre de Grèce. L'endeuillement qui éprouve le cœur éclate dans la maison de chacun. Et de fait, une masse de maux touche le foie. Car qui on a envoyé, on le sait. Mais au lieu d'un homme, les armes et la cendre arrivent à la maison de chacun. Arès se fait banquier de l'or contre les corps et tient les plateaux dans le combat des lances. Aux familles depuis Ilion, il envoie, passer par le feu, un bon poids de poussière amère à pleurer, en chargeant les vases d'une cendre bien rangée qui vaut un homme. Et elle gémisse en louant les hommes. De l'un qu'il était savant au combat, de l'autre qu'il est tombé avec beauté dans la tuerie à cause d'une femme qui n'est pas la sienne.
Côté troyen, ça ne va pas mieux. D'innombrables épouses et mères pleurent leurs maris, leurs fils morts au combat. Et Troie, ville extrêmement riche, ville du luxe, de l'or, de la beauté et des fêtes, s'appauvrit à vue d'œil. Les Troyens reçoivent dans leurs murs de nombreux alliés, venus de l'Asie, de l'Afrique aussi. Il faut les entretenir constamment et vider les réserves. Troie n'en peut plus. Les dieux ont décidé qu'il fallait en finir. Pour cela, ils ont confié toute l'affaire à un héros, un seul, au personnage le plus intelligent, le plus rusé de tous les Grecs, le divin Ulysse. L'homme à l'intelligence multiple, à l'inventif. L'homme qui sait mieux que d'autres débrouiller les situations les plus complexes. Ulysse, pour les derniers épisodes de cette guerre, a agi la main dans la main avec les dieux. Il leur a obéi, il leur a fait confiance. Et il a toujours agi au nom du bien de l'armée grecque. Il n'a jamais trahi, ne s'est jamais révolté contre les généraux qui commandent cette armée. Il a été loyal, efficace. Au départ, il ne voulait absolument pas y aller, à Troie. Il a fait semblant d'être fou pour qu'on le déclare inapte au service. Mais un autre petit malin, un dénommé Palamède, a déjoué sa supercherie.
Pénélope, je suis heureux de te revoir.
Tu cherches mon époux?
En effet, lui et son armée sont priés de se joindre à l'effort de guerre contre Troie.
J'ai lu tes missives. Il y a 8 jours, Ulysse a été saisi d'une fièvre violente qui a altéré son comportement.
Une bien triste nouvelle.
Il ne m'adresse plus la parole. ni à personne.
Mène-moi auprès de lui.
Il laboure cette terre jour et nuit.
Ulysse !
Il ne vous serait d'aucune aide pour combattre. Ce serait un poids pour vous.
Possible. Ou peut-être s'agit-il d'une de ces fameuses ruses. Peut-être essayez-vous de me berner.
Ulysse ! Arrête !
Finalement, tu n'es pas si fou.
Démasqué, Ulysse a dû se joindre à l'immense armée du roi Agamemnon, qui est parti assiéger Troie. Pendant toutes les années de guerre, Ulysse a été loyal, discipliné, mais il a pris le temps de faire payer à ce Palamède sa trop grande lucidité. Ulysse s'est arrangé par des manœuvres ignobles pour que Palamède soit considéré comme un traître et soit exécuté. On a sa fierté quand même. Fidèle, discipliné, Ulysse l'a été nettement plus que les deux grands guerriers qui ont été les plus braves pendant cette guerre, qui ont tout accompli pour que les Grecs soient en mesure de gagner. Ajax, avec son corps de géant. On dit que ses rotules étaient grandes comme des disques d'athlètes. Et avec son immense bouclier, a été un défenseur acharné des Grecs quand les assauts ravageurs des Troyens devenaient menaçants. Et Achille, surtout, a ouvert la voie du succès aux Grecs par ses innombrables exploits et par sa victoire contre Hector, le prince troyen, fils du roi Priam. Hector était le défenseur principal de la ville, la garantie de sa survie. Une fois tué par Achille, Troie devait tomber. Sans Achille, les Grecs n'auraient jamais pu gagner. Mais ni Achille, ni Ajax n'étaient vraiment des guerriers épris de loyauté. Achille, possédé par la célèbre colère que raconte l'Iliade, a pendant plusieurs jours abandonné le combat et condamné à la mort des milliers de Grecs, parce que, pour une histoire de captive, le roi Agamemnon l'avait humilié. Et quand il partait en guerre, Achille, qui se considérait comme le meilleur de tous les Grecs, avait tendance à combattre seul, sans se plier à aucune discipline. Il voulait la gloire uniquement pour lui, et la trahison ne l'effrayait pas. Un jour, il s'est épris d'une jeune et magnifique Troyenne, Polyxène, une fille du roi Priam. Achille était prêt à faire arrêter les combats si on lui donnait cette fille comme épouse, mais il est mort avant. Quant à Ajax, il pouvait passer pour quelqu'un de pas très net. Il avait un demi-frère, Teucros, un archer virtuose, dont la mère était une Troyenne. Et l'épée d'Ajax lui avait été donnée par Hector en personne, au terme d'un duel où Ajax et Hector étaient à égalité. Un échange de dons a eu lieu, et Ajax, comme Achille, pouvait se retourner contre son camp si son camp l'humiliait. Il était capable d'aller jusqu'au massacre. Il pensait même avoir tué les grands chefs grecs, mais les dieux, Athéna en l'occurrence, l'en ont empêché. Rendu fou, dérisoire et pitoyable, Ajax a attaqué des bœufs et des moutons, et non pas des guerriers. Il ne s'en est pas remis, et il s'est tué. Ces deux grands guerriers, Achille et Ajax, se battaient comme des lions contre les Troyens. Mais ils pouvaient aussi s'entendre avec eux. Ils pouvaient s'imaginer comme amis ou alliés de leurs adversaires. Après tout, Achille, Ajax, Hector menaient la même guerre, connaissaient les mêmes élans, les mêmes souffrances, les mêmes joies, les mêmes rages. On se battait face à face, entre égaux, entre semblables. Ulysse n'était pas du tout comme ça. En fait, il n'avait rien contre les Troyens. Il avait même voulu échapper à l'enrôlement dans l'armée grecque. Mais une fois sur place, voyant ses troupes souffrir pendant tant d'années, il mettait toute son intelligence au service de son camp, sans jamais transiger avec l'ennemi. Il voulait la victoire commune de toute l'armée grecque, pour enfin être débarrassé de la guerre. Et il rusait pour cela, en s'assurant l'aide des dieux, sans jamais les provoquer. Ulysse ne visait pas la gloire personnelle, mais le succès global des Grecs et le retour à la maison. Ulysse était politique, contrairement à Achille et à Ajax. Zeus, qui voulait la victoire complète des Grecs, pouvait compter sur lui pour mener à bien une guerre quasi mondiale, comme la guerre de Troie. une guerre décisive qui allait changer pour toujours l'état du monde. Il fallait un stratège, un technicien, et non pas des branques, héroïques, des têtes brûlées, capables du pire comme du meilleur. Ulysse, contre les Troyens, a été efficace et impitoyable. Contrairement à Achille et Ajax, ce n'était pas un sentimental. Il calculait froidement et il n'a laissé aux Troyens aucune chance, aucune survie possible. La prise de Troie a été affreuse, une horreur.
C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit val qui mousse de rayons. Soldat jeune, bouche ouverte, tête nue et la nuque, baignant dans le frais cresson bleu d'or. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle, dans son lit vert où la lumière pleut. Il dort, souriant comme sourirait, comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme, nature berce le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Pierre Judet de la Combe nous parle du cauchemar qu'a été la prise de Troie.
Les Grecs, grâce à Hélène, c'est-à-dire l'Europe, a dressé un trophée de victoire contre l'Asie. Parce que la poursuite d'Hélène a unifié l'ensemble de ces petits Grecs qui n'arrêtaient pas de s'entretuer et les a unifiés face à un ennemi commun. Et ils ont gagné, l'Europe a gagné contre l'Asie. C'est-à-dire que c'est une guerre qui a constitué pour la première fois quelque chose comme une unité européenne face au reste du monde barbare.
Barbara Cassin, helléniste.
Beaucoup de choses sortent de là. C'est-à-dire beaucoup de préconceptions de ce que c'est que une unité. À savoir, on est unis contre des ennemis. Et de ce que c'est qu'une guerre, donc. Et de ce que c'est aussi que des barbares. C'est-à-dire tous les autres, tous ceux qui ne sont pas nous.
Ce sera difficile à raconter et à entendre, la prise de Troie. Nous allons avoir du mal, tellement c'est cruel. Les Grecs ont été odieux, féroces et fous. En une nuit, ils ont commis tant de crimes contre les humains et aussi contre les dieux. Le dire, ce n'est pas porter un jugement anachronique de personnes modernes, de quelqu'un qui serait devenu sensible aux droits humains et à la valeur inestimable de chaque vie humaine. C'est vrai que l'idée que chaque vie humaine est dotée d'une valeur absolue est très récente dans l'histoire des consciences en Europe. Le sociologue-philosophe Raymond Aron disait que cette idée date de la Première Guerre mondiale, à cause des souffrances et des horreurs vécues dans les tranchées françaises et allemandes de Verdun. Les Grecs anciens n'avaient pas une telle idée, mais ça ne les empêchait pas d'être choqués, révoltés par cette nuit de rage contre les Troyens, contre leur ville, leur temple, contre leurs enfants. Il l'a trouvé horrible, coupable. Les dieux aussi ont été horrifiés, même ceux qui, au départ, soutenaient les Grecs. Surgit une question pour laquelle j'avoue que je n'ai pas vraiment de réponse. la victoire des Grecs contre Troie est le mythe majeur qui donne aux Grecs leur identité, leur unité, leur gloire ineffaçable dans une action commune gigantesque entreprise par toutes les cités grecques. La première de ce genre, la guerre de Troie, a fondé la Grèce. Il y avait des mythes locaux pour chaque grande famille, chaque cité. Il y a eu des rassemblements mémorables de héros issus de toute la Grèce pour aller chercher la toison d'or avec Jason, ou pour chasser en bande un gros et méchant sanglier dans les bois de Calydon. Mais il ne s'agissait que d'individus et non de cités entières. Il y a eu la guerre déchirant les Grecs autour de la ville de Thèbes, avec la querelle entre les fils d'Oedipe. Mais c'était grec contre grec. Le premier événement rassemblant dans une même entreprise tous les Grecs soudés contre un ennemi extérieur est la guerre de Troie et la victoire finale. Cet événement considéré comme réel, historique, était la référence absolue pour tout Grec. Et pourtant, ces mêmes Grecs savaient très bien que cette victoire éclatante était aussi odieuse, criminelle, coupable. Ils savaient qu'elle a été l'occasion de crimes affreux contre les humains, contre les dieux. Pourquoi se donner comme mythe d'origine une telle violence, triomphante, irrésistible, mais sacrilège? Je ne sais pas.
Patrice Brun, historien.
Alors, il y a deux types de guerres qui sont parfaitement différenciées chez les Grecs. Il y a ce que l'on appelle le polémos, qui est la guerre contre l'ennemi extérieur, et il y a la stasis, qui est la guerre à l'intérieur de la cité. Ce sont deux mots. Nous, on utilise le terme de guerre d'un côté et de guerre civile de l'autre. Les Grecs avaient en horreur la stasis, mais vénéraient le polémos. Et c'est ça qui nous paraît un petit peu étrange. C'est qu'ils avaient en quelque sorte besoin du polémos pour éviter la stasis. En Grèce, il faut un ennemi. On a un petit peu l'impression que les Grecs ne fonctionnent pas autrement. Pour souder le groupe à l'intérieur de la cité, il est indispensable de se créer un ennemi extérieur.
Après la mort d'Achille et d'Ajax, la chute de Troie va s'accélérer à cause de révélations divines. Un jour, Ulysse fait prisonnier dans une embuscade le devin troyen Hélénos, l'un des fils de Priam. Ce prince était, nous dit Homère, le meilleur interprète du vol des oiseaux. Il pouvait aussi recueillir dans son cœur ce que les humains n'étaient pas censés entendre, à savoir ce que les dieux disaient entre eux quand ils décidaient du sort des mortels. Cela, Hélénos l'entendait et pouvait le transmettre à ses semblables. Cet Hélénos avait entendu des choses essentielles sur le destin de Troie. Il savait exactement à quelles conditions les Grecs pourraient abattre la ville. Hélénos a parlé à Ulysse beaucoup. On ne sait pas pourquoi. Il lui a livré les secrets divins qui vont permettre aux Grecs de gagner. Chaque fois, Ulysse, en bon exécutant des volontés divines, va réaliser ce que le devin lui a dit. D'après certaines traditions, Hélénos dit à Ulysse que les Grecs ne peuvent vaincre que s'ils font venir à Troie le fils d'Achille, Néoptolème, dont le nom veut dire « nouveau au combat ». On l'appelle parfois Pyrrhos, Pyrrhus, le rouge, car il était roux. Ce fils a grandi au loin dans l'île de Skyros. Achille ne l'a jamais vu. La mère d'Achille, Thétis, avait travesti son fils encore tout jeune en fille. Elle l'avait placé chez le roi de l'île de Skyros, un homme sage, qui avait beaucoup de filles. Thétis savait que son fils devait mourir à Troie. Elle voulait le protéger. Elle pensait que s'il passait pour une fille, il échapperait à la guerre. Achille féminin s'est donc mêlé aux filles de Skyros. Et bien intégré, il en a séduit une, la très belle Déidamie. Elle a donné naissance à ce Néoptolème. Puis Ulysse, habile comme toujours, a reconnu Achille, qui n'a pas pu échapper à son destin de guerrier. Ulysse fait donc venir le jeune Néoptolème dans l'armée grecque. Tout de suite, il lui donne les armes merveilleuses de son père, Achille, celles qu'il avait obtenues par décision des Grecs et qui avaient été refusées à Ajax. Ajax en est mort. Ulysse dispose donc d'un petit Achille, qui ne sera pas incontrôlable comme l'était son père. Ce Néoptolème Pyrrhus sera un guerrier féroce, sacrilège. Il le payera très cher. La deuxième condition pour la victoire des Grecs, selon le devin Hélénos, est qu'il fasse revenir parmi eux Philoctète, un guerrier fameux, un archer invincible, qui avait hérité de l'arc d'Héraclès, de ses flèches empoisonnées qui ne manquaient jamais leur cible. Héraclès a déjà pris Troie autrefois avec son arc, une génération auparavant. Ces flèches, dit Hélénos le devin, doivent prendre Troie une seconde fois. Or, ce Philoctète est absent depuis longtemps. Il a été chassé de l'armée grecque avant même qu'elle ne débarque à Troie. Lors d'une escale sur une île, Philoctète avait pénétré dans un espace sacré et avait été mordu par une vipère. La blessure s'est infectée. Elle est devenue atrocement douloureuse. Philoctète hurlait. Son pied était purulent. Ses cris perturbaient fortement les cérémonies religieuses des Grecs. Les généraux, Agamemnon et Ménélas, avec Ulysse, ont alors décidé de se débarrasser de lui en l'abandonnant sur une île déserte, Lemnos, dans une grotte, avec son arc, pour qu'il puisse au moins survivre en tuant des oiseaux. Philoctète a passé 10 ans à alterner sommeil d'épuisement et douleur, à hurler et à haïr férocement les Atrides et Ulysse qui l'ont jeté sur cette île. Sa colère ressemble à celle d'Ajax et d'Achille, mais elle est infiniment plus longue, 10 ans. Or voilà qu'on découvre au dernier moment que sa présence dans le camp grec avec son arc est indispensable. Ulysse part en mission pour l'île de Lemnos avec Diomède. Parfois on dit que c'est avec le fils d'Achille, Néoptolème, pour récupérer Philoctète, tout en sachant que c'est très périlleux vu la précision de ses flèches. Mais Ulysse arrive à le ramener grâce à une intervention divine. Héraclès, qui était l'ami de Philoctète, qui lui a transmis son arc avant de mourir et qui depuis est devenu dieu immortel, lui apparaît et lui ordonne de ne faire ni une ni deux et de rejoindre immédiatement les Grecs à Troie. Avec son arc, Philoctète va tuer le mari d'Hélène, Paris, le prince troyen qui a tué Achille et qui a été à l'origine de toute la guerre. Philoctète aura donc sa gloire. Mais on voit à quel point cette histoire est cruelle. Il a vécu 10 ans de solitude, de souffrance, de maladie, de puanteur, de colère contre les Atrides. Et cette colère doit être effacée, oubliée en un instant, parce que son arc divin est, selon la volonté des dieux, un instrument essentiel à la victoire des Grecs. Tout ce que Philoctète a vécu ne compte pas. L'histoire doit suivre son cours, tel que les dieux l'imposent.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Pierre Judet de la Combe nous raconte la ruse du cheval de Troie.
Hélénos, le devin, annonce une troisième condition mise par les dieux à la prise de Troie. Là encore, Ulysse va obéir et se débrouiller. Hélénos dit que Troie est protégée par un objet sacré, une statue à l'image de la déesse Pallas Athéna, avec son casque, sa lance, son bouclier. C'était une statue sacrée. Tant qu'elle serait en place à Troie, Troie serait imprenable. Ulysse comprend tout de suite qu'il faut la dérober. Avec Diomède, son complice habituel des mauvais coups, il s'infiltre la nuit dans la ville. Les deux compères arrivent à tromper les gardiens en l'en tuant quelques-uns. S'introduisent dans le temple où était gardée la statue. Ils s'en emparent et reviennent vers le camp des Grecs. Ce retour n'est pas vraiment pacifique. Ulysse, toujours partant quand un profit est en jeu, se dit qu'il pourrait garder la statue sacrée pour lui. Diomède marche devant lui avec le palladium dans les mains. Ulysse sort son épée pour le supprimer, mais Diomède voit son ombre à cause du clair de lune. Il se retourne, maîtrise Ulysse et le fait marcher alors devant avec une épée dans le dos. Néoptolème, Philoctète, le palladium. Ulysse a scrupuleusement coché toutes les cases dans la liste des conditions de la victoire qu'a transmise le devin Hélénos. Reste à prendre Troie, à trouver le moyen de pénétrer dans l'enceinte de la ville et de la dévaster. Il faut inventer une ruse, puisque les remparts construits par les dieux sont infranchissables. Ce sera la ruse du cheval de Troie. Parfois on dit qu'Hélénos, toujours inspiré, a soufflé l'idée à Ulysse. Parfois l'idée vient directement d'Athéna. Elle l'aurait expliqué à un artisan extraordinaire, un charpentier nommé Épéios.
Je rêve souvent de ma femme, de ma bonne et fidèle Pénélope, et je me vois en songe revenant vers elle en possession des plus magnifiques trésors de Troie.
Mais comment ?
Les travaux que tu as fait entreprendre et qui se poursuivent en forêt se rapportent-ils au plan que tu as conçu ?
Ils concernent un monument élevé à la gloire de Paris et d'Hélène, un présent de la déesse Athéna, un cheval sacré, si beau, si merveilleux, que tout Troyen se fera une joie de le faire entrer dans sa cité.
Sous la conduite de cet Épéios, les Grecs vont couper une multitude d'arbres sur les pentes du mont Ida. Les Grecs construisent un cheval en bois immense. Il faisait 100 ou 120 pieds de long et 30 ou 50 de large. Un poète ancien nous dit que ses yeux, sa queue, ses genoux étaient mobiles.
Agamemnon, fais sonner la retraite assez fort pour qu'on entende jusqu'à Troie, que les bateaux s'éloignent, mais qu'il reste suffisamment de soldats cachés dans la forêt.
Les bateaux reviendront à l'aube. Mais es-tu certain que les Troyens feront entrer ce monstre dans leur cité?
Je te le garantis. Leur gratitude envers Athéna pour leur victoire inespérée sera extraordinaire et ils accueilleront avec ferveur ce cheval prodigieux. Tenez-vous prêts, mes amis!
Ce cheval était un piège. L'idée était de faire monter dedans les meilleurs des guerriers achéens, de s'arranger pour que les Troyens le conduisent à l'intérieur des remparts. Le nombre des guerriers cachés dans le cheval varie énormément selon les auteurs. 12, 30, 100, un poète dit 3000, ce qui est quand même exagéré. En tout cas, il y avait les meilleurs. Néoptolème, Ulysse, Diomède, Sthénélos, Ménélas, Acamas, Démophon. Leur mission était de sortir du cheval une fois la nuit tombée et d'ouvrir les portes de la ville. Le reste de l'armée grecque pourrait s'y engouffrer. Cette armée avait disparu. C'était là aussi le piège. Les Grecs avaient incendié leur camp. Ils étaient remontés dans leurs bateaux et avaient pris la mer. Ils n'étaient pas allés bien loin. Ils étaient allés se cacher derrière l'île de Ténédos, juste en face de Troie, et attendaient un signal pour revenir en force. Sur la plage, il n'y avait plus que les restes carbonisés de l'immense camp grec et solitaire, ce mystérieux cheval de bois, gigantesque.
Qu'est-ce que c'est ?
Une offrande à Poséidon. Les Grecs prient pour entrer chez eux sains et saufs. C'est une offrande. Nous devrions l'installer au temple de Poséidon.
Nous devrions le brûler.
Le brûler, mon prince, c'est une offrande aux dieux.
Les Troyens sont perplexes. Que faire de cette construction de bois abandonnée par les Grecs ? Les avis sont partagés. Faut-il la jeter à la mer, l'ouvrir à la hache, la fouiller, y mettre le feu ? Ou au contraire, y voir un don divin et l'accueillir dans la ville, tellement ce cheval est surprenant et beau, magnifique, au milieu des débris du camp de ces Grecs si orgueilleux, enfin en aller. Les Troyens sont divisés. Le parti en faveur de l'accueil du cheval commence à l'emporter. Un Troyen est particulièrement lucide, mais il ne pourra rien empêcher. C'est la triste histoire de Laocoon et de ses enfants. Laocoon était un prêtre du dieu Poséidon. Quand il voit que les Troyens, soulagés par le départ des Grecs, par la destruction de leur camp, sont prêts à accueillir le cheval, à le faire entrer dans la ville, il est ulcéré et tente de les dissuader. Il a compris que le cheval était rempli de guerriers ennemis. Le poète latin Virgile raconte ce qu'a vu un survivant. Laocoon s'emporte contre les Troyens, mais ses cris, ses avertissements ne serviront à rien.
Pauvre malheureux compatriote, c'est quoi pareille folie? Vous croyez qu'il a filé l'ennemi? Vous pensez peut-être les cadeaux des Danaïs sans ruse? C'est ça, l'Ulysse que vous connaissez? Ou bien à l'intérieur du bois des Achéens se sont cachés? Où cette chose a été fabriquée pour nos murs, machine à épier nos maisons, à pénétrer bien à fond notre ville? Ou une autre quelconque tromperie? Ce cheval, ne vous y fiez pas, Troyens, quoi qu'il soit. Je redoute les Danaïs, même porteurs de dons, Timéo Danaos et Dona Ferentes. C'est ce qu'il a dit, force vigoureuse. Il envoie virevolter dans le flanc, dans le ventre rond de la bête, aux jointures, une longue lance. Fichée là, elle vibre, pense percutée. Et si ce n'était destin des dieux, si notre raison ne s'était abêtie, il nous aurait convaincus de fléchir au fer ce repère d'Argiens. Aujourd'hui, Troie serait debout. Altière citadelle de Priam, tu serais toujours là.
Laocoon ne va pas convaincre les Troyens. Les dieux vont l'éliminer d'une manière plus que cruelle. Il se trouve que Laocoon s'était autrefois rendu coupable d'une faute envers Apollon. Une faute qui passait pour grande. Il se serait uni à son épouse à l'intérieur d'un sanctuaire d'Apollon. Il paraît que ça ne se faisait pas. Apollon va le lui faire payer très cher. La mer grouille de monstres plus terrifiants les uns que les autres. Pour une fois, Apollon va se faire dieu marin et va utiliser cette formidable force primitive pour punir Laocoon. Il envoie deux monstres, deux serpents, qui vont attaquer Laocoon et ses enfants. Les Troyens vont croire que Laocoon est puni par les dieux parce qu'il se méfiait du cheval laissé par les Grecs. Les dieux montreraient par là qu'il faut accueillir le prodige qu'est cet immense cheval de bois. C'est bizarre. En punissant cruellement Laocoon, Apollon rend inévitable la fin de Troie. Or, ce dieu a soutenu Troie depuis le début. Et voilà qu'il accélère sa chute. C'est que l'heure de la fin de Troie a sonné. Troie ne peut plus échapper au destin que Zeus lui a fixé. La ville doit être prise, ravagée et disparaître. Apollon, en bon fils de Zeus, en dieu soumis qui accomplit les volontés de son père, l'a aidé dans la réalisation de son but. Virgile continue son récit.
Ici, quelque chose de pire, beaucoup plus terrifiant, nous est, pauvres malheureux, assénés, trouble nos cœurs de manière imprévue. Voici que de Ténédos, à travers le calme plat, ils sont deux, le rappelant je frissonne, des serpents, anneaux gigantesques, s'allongent sur la mer, se dirigent de concert vers le rivage. Bustes dressés parmi les flots, crêtes sanguinolentes dépassant des vagues. Le reste de leur corps, l'arrière, effleure la surface. Leur croupe ondoie, énorme masse. Tintamarre en l'écumante mer. Déjà, ils atteignaient la rive. Leurs yeux brûlent, injectés de sang, de feu. Langue palpitante, ils lèchent leur sifflante gueule. Nous fuyons, vides de sang, à cette vue. Eux, rangs assurés, vont à Laocoon. Pour commencer, chaque serpent, s'enroulant au petit corps de ses deux enfants, les enlace. De ses morsures dévore, pauvres malheureux, leurs membres. Ensuite, lui qui accourait à leur secours, arme en main, ils le saisissent, le ligotent de leurs anneaux géants. Déjà deux fois enroulé à son torse, deux fois passé autour de son cou, leur écailleuse queue, ils le surplombent de la tête, de leur haute nuque. En même temps qu'il essaie de ses mains de desserrer les nœuds, tout éclaboussé, ses bandelettes, de pu, de noir venin, en même temps, il lance vers les astres d'atroces hurlements.
Les Troyens sont affolés. Ils se disent qu'un tel prodige divin signifie que Laocoon avait fauté contre les dieux en attaquant le cheval avec sa lance et a été puni. Et cela est d'autant plus évident que les serpents, après leur carnage, vont se réfugier dans le temple d'Athéna, Minerve pour les Latins.
En paire rampante, les dragons, vers le sanctuaire sur la hauteur, s'enfuient, rejoignent la citadelle de Minerve, la sauvage, s'abritent aux pieds de la déesse, à l'arrondi de son bouclier. Cœurs ébranlés, une peur nouvelle s'insinue chez nous tous. Il aurait payé pour son crime, bien mérité, Laocoon. C'est ce qui se dit. N'a-t-il pas, de son épieu, blessé le chêne sacré, dardé sur son dos sa lance criminelle?
Les Troyens, sous le choc, font entrer le cheval dans la ville. Comme il est trop grand, trop haut pour passer les portes, on taille une brèche dans les remparts et on fait la fête autour de ce qu'on croit être un gigantesque cadeau des dieux.
Nous cassons les murs, faisons passage dans les remparts de la ville. Tous s'activent, laborieux. Sous les pieds sont glissées des sortes de roues. À son cou, des cordes d'étoupe sont tendues. La fatale machine escalade la rampe, pleine d'hommes armés. Tout autour des enfants, des filles non mariées chantent les rites. On joie de toucher de leurs mains au filin. Elles s'approchent, s'insinuent, menaçantes en plein cœur de la ville. Ô patrie, ô demeure de Dieu, Ilion, t'es si fameuse à la guerre, rempart de Dardanie. La chose, quatre fois au seuil des portes, s'arrête. Dans la panse, quatre fois les armes résonnent. Nous, les sans-mémoire, on persiste pourtant, aveuglement furieux, et le monstre de malheur, on l'installe sur la citadelle consacrée.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Pierre Judet de la Combe nous parle du cauchemar qu'a été la prise de Troie.
Je crains les Grecs quand ils font des présents. Notre sœur a parfaitement raison. Ce monument est maudit et devrait être brûlé immédiatement.
C'est bien mon avis. L'ennemi ne peut vouloir offrir de présents bénéfiques.
Non, mes enfants. Il ne s'agit sûrement pas d'un présent, mais d'un symbole d'adoration qu'ils ont été contraints d'abandonner. Accueillons ce cheval sacré. Il restera comme le symbole de la valeur troyenne.
Bien, Seigneur.
Cassandre, la fille de Priam, la prophétesse qui dit toujours le vrai, essaye d'arrêter les Troyens. Elle leur révèle ce que contient le cheval. Mais Cassandre a été maudite par Apollon parce qu'elle s'est refusée à lui. Personne jamais ne croit ses paroles. Ce qu'elle dit n'a aucun effet. Les Troyens font la fête. Ils sont en liesse, enfin libérés, croient-ils, les envahisseurs grecs. Ils sont heureux, dansent, boivent. Pendant une grande partie de la nuit, ils vont se coucher. Leur désastre est tout proche. Un grec de malheur, qui porte un nom sinistre, Sinon, Sinon. Ce nom évoque le mot Sinos, qui veut dire le désastre. Allume un feu au bord de la mer, près du tombeau d'Achille. C'est le signal pour l'armée grecque qui s'était cachée derrière l'île de Ténédos. La masse de l'armée grecque reprend la mer et débarque à nouveau sur les côtes de la Troade. Les guerriers sortent du cheval et vont ouvrir les portes de la ville. C'est la ruée, un déferlement de massacre, l'horreur. Les Troyens sont surpris. Ceux qui le peuvent se défendent, mais les Grecs avancent impitoyablement. Et voilà comment Troie, la ville des chevaux, la cité magnifique, généreuse, qui nourrissait les chevaux immortels, divins, splendides, que Zeus avait autrefois offert à un de ses rois, va être détruite par un cheval de bois, un piège creux, fabriqué à main d'homme par des hommes fourbes. Les Troyens meurent en masse.
Partout des Troyens expirent pêle-mêle, et combien gisent qui n'ont vu venir la mort que dans leurs songes.
Parfois, les Troyens se défendent. Quelques combats s'organisent. Diomède tue le fiancé de Cassandre, Corèbe et beaucoup d'autres. Agamemnon, Idoménée, Mégès, Ulysse remportent leur victoire, si on peut employer un tel mot pour cette furie. Mais la guerre tourne surtout au carnage, sans aucune règle, sans aucun respect. Enfants, vieillards y passent sans distinction. La ville est inondée de sang. Le fils d'Achille, Néoptolème, s'en prend aux quelques fils de Priam qui vivaient encore et il les élimine. Il fait plus. Il ne recule pas devant le crime contre les dieux. Il surprend le vieux Priam qui s'était réfugié en se blottissant contre l'autel de Zeus. Normalement, l'autel est un refuge sacré. Priam, sous la protection du dieu, était intouchable. Mais le fils d'Achille n'a aucun scrupule. Il égorge le vieux Priam sur l'autel. C'est un immense sacrilège. Ménélas règle ses comptes. Il massacre à tour de bras et finit par tomber sur le mari qu'a pris Hélène après la mort de Paris. Un Troyen qui s'appelle Déiphobe. Il était lui aussi un fils de Priam. Ménélas le trouve, la tête alourdie de vin, couché dans le lit conjugal. Il le supprime. Il ne voit pas Hélène qui s'est enfuie. Ménélas la cherche partout, il la trouve. Il s'était juré de la tuer, mais Aphrodite vient au secours de sa protégée. Alors qu'Hélène voit s'approcher un Ménélas couvert de sang, ivre de jalousie, furieux, et décidé à la tuer, elle dévoile sa poitrine. D'un seul coup, Ménélas est saisi de désir et laisse tomber son épée. Ménélas partira avec Hélène en Grèce. On dit aussi que les Grecs voulaient lapider Hélène. Comme ça, tous ceux qui avaient souffert à cause d'elle pourraient se venger. Mais devant sa beauté, ils laissèrent tomber leurs pierres. Quelques Troyens sont épargnés, ceux qui avaient été les plus conciliants avec les Grecs. Énée, le fils d'Aphrodite, échappe au massacre. Portant son vieux père Anchise sur le dos, il part pour d'autres aventures. Mais à part ces quelques rescapés, la violence est partout. Le sacrilège se répand, les temples brûlent, les dieux sont horrifiés. Une déesse surtout entrera en rage contre les Grecs, alors qu'elle les a tellement soutenus depuis le début, depuis que Paris ne l'a pas désignée comme déesse la plus belle, mais lui a préféré Aphrodite lors de son fameux jugement, qui était à l'origine de toute l'histoire. C'est Athéna. Elle a dû, cette nuit-là, assister à une scène épouvantable. Il y avait un chef grec qu'on appelait le petit Ajax. Ce n'était pas le grand Ajax, pas le guerrier massif comme un rempart, l'homme au prodigieux bouclier qui s'est suicidé, mais le petit, rapide, mobile et redoutable. Ce petit Ajax a commis un acte irréparable. Pendant cette nuit, il surprend Cassandre, la plus belle des filles de Priam et d'Hécube. Elle s'est réfugiée dans le temple d'Athéna, Ajax s'en prend à elle, il la violente, alors qu'elle s'accrochait désespérément à la statue de la déesse. De dégoût, la statue a tourné ses yeux vers le ciel. Les Grecs sont scandalisés par ce crime. Ils décident de punir cet Ajax en le lapidant. Mais celui-ci, ironie du sort, sauve sa vie en se réfugiant à son tour près de l'autel d'Athéna. Mais il ne perd rien pour attendre. La colère de la déesse contre lui sera meurtrière plus tard. Les Grecs, dans leur ivresse de meurtre, n'ont respecté aucune règle humaine ou divine. Ils voulaient l'anéantissement total de Troie, enfants, vieillards, hommes adultes, maisons, temples, statues, trésors. Ils voulaient l'asservissement de toutes les femmes troyennes. Ils l'ont eu. C'est une annulation totale de la ville ennemie, population, richesse, religion. Le guerrier grec que le poète Eschyle fait parler dans sa tragédie Agamemnon et que nous avons entendu tout à l'heure, il est trop heureux et fier d'avoir participé à cet anéantissement total de la ville. Anéantissement que ne respectent ni les humains ni les dieux. Pour ce soldat, Agamemnon est un prodige plus qu'humain. Il a su accomplir un acte de destruction totale, sans reste.
Le prince Agamemnon a labouré Troie avec la houe de Zeus, dispensateur de justice. Par elle, le sol fut travaillé jusqu'au fond. Les autels et les édifices des dieux sont devenus invisibles, et la semence de la terre annulée dans tous ses lieux. Ayant jeté sur Troie la machine d'un tel joug, lui, le prince, le premier des Atrides, homme heureux, il est le plus digne d'hommage des mortels de ce temps.
Agamemnon n'a pas hésité à détruire les sanctuaires des dieux, qui sont désormais invisibles. Le poète Eschyle est surprenant. Dans une autre pièce, les Perses, il a employé exactement les mêmes mots de destruction, d'effacement des lieux divins, pour évoquer tout autre chose, non pas une victoire grecque, mais une immense infamie barbare. Les ravages sacrilèges commis par l'armée des Perses, conduite par Xerxès, quand elle a occupé et incendié la ville d'Athènes, et notamment son acropole, avec le sanctuaire d'Athéna. Eschyle a bien connu cette destruction. Il a combattu cette armée perse, qui a fait à Athènes ce que les Grecs ont fait à Troie, avant que l'armée perse ne sombre vaincue lors de la bataille navale de Salamine. Les Grecs à Troie ne sont pas plus respectables que les barbares perses qui ont déferlé sur Athènes pour la ravager. Les Perses, finalement, ont été vaincus par les Athéniens. Une menace pèse donc sur les guerriers vainqueurs de Troie, qui pensent avoir fini leur travail guerrier de destruction. Le cœur de la tragédie d'Eschyle Agamemnon s'attend au pire.
L'angoisse attend en moi d'entendre quelque chose couvert de nuit, car les tueurs en masse n'échappent pas au regard des dieux.
Une voix féminine et non guerrière va dans cette pièce d'Eschyle Agamemnon évoquer la menace qui pèse sur les vainqueurs, sur ces guerriers épuisés qui pensent trouver enfin la paix et le repos après une nuit de dévastation. Cette voix est celle de la femme d'Agamemnon, la reine Clytemnestre, qui ne sait que trop bien de quoi elle parle, qui sait quelle menace pèse sur l'armée, puisqu'elle s'apprête à tuer Agamemnon, son mari, le vainqueur de Troie, dès qu'il mettra le pied sur le sol de sa patrie. Dès qu'elle apprend que Troie est tombée, elle imagine ce qu'a été la prise et les dangers à venir.
Les Achéens, ce jour même, possèdent Troie. Je sens qu'un cri disjoint s'impose dans la ville. Si tu verses le vinaigre et l'huile dans le même vase, tu les déclarerais en dissidence, sans amitié, et des captifs et des vainqueurs, on peut entendre les voix séparées d'un destin double. Car les uns, couchés autour des corps, des maris et des frères, les enfants couchés sur les vieillards qui ont donné la vie, d'une gorge qui n'est plus libre, pleurent la mort des êtres les plus aimés. Et les autres, le travail du combat dérivant dans la nuit, les répartit affamés là où la ville offre le manger du matin, sans aucun signe pour leur fixer une place. Comme chacun a pu tirer son jeton de hasard, ils habitent maintenant les demeures troyennes, prises de force, délivrées des glaces et de la rosée de dessous le ciel. Et comme les dieux bienheureux, ils vont dormir sans garde toute la nuit. Et s'ils respectent les dieux qui règnent sur la ville et sur la terre conquise et les édifices des dieux, les conquérants pourraient ne pas mourir. Mais tout d'abord, que ne s'abatte pas sur l'armée le désir de piller ce qu'il ne faut pas, vaincu par l'attrait du profit. car il faut encore la sûreté du retour dans les maisons, et courber dans l'autre sens la seconde partie de la course.
Mais le roi vainqueur, Agamemnon, n'a aucune conscience de ce danger. Il n'a aucun remords. Quand il rentrera chez lui à Argos, quand il se présentera devant les citoyens de sa ville et devant sa femme, Clytemnestre, il dira simplement qu'il est content de lui. Il a gagné. Sa guerre de destruction était juste. Il a puni Troie comme il le devait. Il pense qu'il avait les dieux avec lui. Pour lui, tout est dans l'ordre. La violence extrême qu'il a déchaînée était légitime. Cette guerre était selon lui un procès en justice contre Priam, contre Paris et tous les Troyens, tous solidaires du criminel qu'était Paris. Dans ce long procès qu'a été la guerre, les Troyens n'ont au final obtenu aucun vote pour eux. Le jury divin, pense Agamemnon, les a condamnés d'un vote unanime. La violence de la destruction de Troie le prouve. À peine rentré chez lui en Grèce, Agamemnon fait le fier, il pérore.
En premier, il est juste de nommer Argos et les dieux du pays, co-responsables avec moi de mon retour et de la justice avec laquelle j'ai puni la ville de Priam. Car les dieux, ayant entendu les droits plaidés sans parole, ont mis comme suffrage la ruine d'Ilion avec ses morts d'hommes dans l'urne sanglante, sans partage. Vers la jarre du côté contraire venait l'espoir, mais aucune main pour la remplir. Une fumée noire met aujourd'hui encore un grand signe sur la ville conquise. Les ouragans du mal sont bien vivants, et mourant avec le reste, la cendre jette au loin les souffles gras de la richesse.
Agamemnon n'a rien compris, et sa femme Clytemnestre se chargera de le lui faire comprendre. En l'assassinant, à peine il descendra pompeusement de son char de grand chef de guerre. Mais les dieux ne sont pas aussi simplistes que cet Agamemnon content de lui, persuadé d'avoir été d'abord un instrument de la justice divine. Les dieux pensent en fait comme Clytemnestre. Cette guerre qui se voulait juste était aussi criminelle. Après la chute de Troie, le jour d'après, des voix de femmes troyennes feront entendre ce qu'était en fait cette guerre. Nous les écouterons la semaine prochaine.
Quand les dieux rôdaient sur la terre.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Lechêne. La programmation musicale est de Thierry Dupin. La prise de son a été assurée par Mathieu Tourin et le mixage par Julie Garraud. Bonne journée sur France Inter.